Chapitre 13. Jean-Paul et Petit Jacques en étaient là de leur centième altercation lorsqu'un grand bruit qui se fit à l'avant du théâtre vint absorber toute leur attention. Pendant qu'ils s'étaient querellés, le spectacle avait suivi son cours. On avait pu admirer successivement les tours de force de la reine des îles Salmigondi, les danses de cordes de ses grandes filles, les cabrioles des plus petites, les tours de gibecière du marquis, les niaiseries de paillasses, toute chose dont je vous donnerai la description en temps opportun. L'explication commença enfin. Mais ces diverses curiosités amusèrent peu les badauds, car dans le programme de leur représentation, le marquis leur avait annoncé quelque chose dont l'attente nuisait singulièrement au reste. Cette chose merveilleuse et si impatiemment désirée, c'était, comme vous le rappelez, le grand combat à outrance entre deux superbes ours de la mer glaciale et quatre superbes bulldogs tels qu'ils se pratiquent les jours de grandes cérémonies à la cour de Sa Majesté, le roi de toutes les Espagnes, dont Sa Majesté la Reine est très sensible à ce genre de récréation, etc. Le public paraissait être du sentiment de Sa Majesté la Reine de toutes les Espagnes et demandait obstinément que le marquis de la Galoche exécutât sa pompeuse annonce. Ce dernier, qui n'avait pas craint de jeter une telle promesse en l'air, comme tant d'autres également mensongères, sans avoir aucun moyen de la tenir, et dans l'unique but de surexciter la curiosité, ce dernier s'efforçait de détourner l'attention chaque fois qu'on lui rappelait ses paroles, mais c'était en vain. À chaque moment, quelques voix opiniâtres s'élevaient de la foule et demandaient « Des ours! Le grand combat d'ours! Nous voulons les ours de Sa Majesté la Reine de toutes les Espagnes !» Tout faisait donc prévoir l'extrême embarras où allait se trouver l'imprudent saltimbanque. Après avoir déclamé des explications encore plus saugrenues que d'habitude, dans le but de donner le change à la curiosité publique, il avait enfin dirigé l'assistance devant les deux dernières cages d'animaux, lesquelles renfermaient nos deux monstres improvisés. Ayant soulevé du bout de sa baguette le rideau de toile verte qui les cachait, il ouvrit la porte de Petit Jacques et, le saisissant par son piédestal, l'attira en dehors, sur le large rebord de la planche qui supportait la ménagerie. Il brandit alors sa baguette, et reprenant sa voix si prétentieusement accentuée, il débita impudemment les balivernes suivantes. « De plus en plus fort, c'est ici, messieurs et dames, comme chez Feu Nicolet, avec lequel j'ai eu l'honneur de faire ma rhétorique, ceci vous représente l'enfant monstre, surnommé le gobe-mouche. Admirez, messieurs et dames, l'étonnante conformation dont la nature l'a doué. Cet animal n'a pas d'idiome et se nourrit d'insectes exclusivement. Vous pouvez en faire l'expérience par vous-même. C'est à cette circonstance qu'il doit le sobriquet que l'illustre monsieur de Lacépède lui a donné. Encore un prince des naturalistes, celui-là. Car les naturalistes possèdent aussi une foule de princes. » Sur cette invitation, quelques curieux s'empressèrent d'attraper des mouches et de les offrir au malheureux Petit Jacques, qui recula la tête avec horreur. « Eh bien, il n'en veut pas, votre monstre !» crièrent quelques sceptiques. « Ce n'est pas étonnant, » répliqua le marquis de la Galoche, avec son imperturbable assurance. « L'animal en est parfaitement repu. Je m'étonne même qu'il en reste quelques-unes dans l'appartement. » Quand je songe au grand carnage qu'il en a fait depuis notre arrivée en ces lieux enchanteurs. Au surplus, il a l'habitude de ne vouloir rien prendre que de ma main. Veuillez, messieurs, me confier ces aimables volatiles, vous allez voir avec quel plaisir il va les gober à la satisfaction générale des amateurs. » Le marquis de la Galoche prit les mouches et les approcha de la bouche de Petit Jacques en lui disant tout bas « Mange, morbleu !» Mange ou je te fais jeûner d'ici à l'année prochaine. » Malgré cette menace peu réconfortante, le dégoût l'emporta sur la crainte, et Petit Jacques se mit à dire, à la stupéfaction de l'auditoire, « Voulez-vous bien me laisser tranquille avec vos mouches ?»« Eh bien, » reprirent alors les mêmes sceptiques, « il parle donc, votre enfant monstre, il a donc un idiome ?»« Hélas, oui, messieurs et dames, » riposta le marquis de la Galoche, « mais il ne parle que dans les grandes circonstances, lorsqu'il ne peut plus faire autrement. » Du reste, cet animal, messieurs et dames, tient de l'homme et du végétal. On ne le trouve que dans les rochers de l'Amérique septentrionale, où il pousse de la même manière que des champignons en Europe. Vous pouvez voir, messieurs et dames, la tige de bois sur laquelle il croît. Et cela vous explique comme quoi la nature, toujours ingénieuse, lui a refusé des bras et des jambes qui l'embarrasseraient puisqu'il est destiné à vivre sur place et à se sustenter uniquement des diptères, ou si vous l'aimez mieux, des latéricètes, ou si vous le préférez, des sarcostomes qu'il gobe à la volée. Ici, petit Jacques, qui venait d'être pris d'une crampe, se mit à crier tout à coup. « Oh, la jambe ! Oh, le bras ! Vous m'avez lié trop fort ! Déliez-moi donc !»« Eh bien, reprirent les enragés sceptiques, il a donc des jambes ! Il a donc des bras ! Qu'est-ce que vous nous en disiez donc ?» De nombreux sifflets accueillirent cette nouvelle découverte. Le marquis de la Galoche ne s'en émut pourtant pas davantage. « En voilà assez pour celui-là, » dit-il froidement. « Passons au suivant. » Il repoussa Petit Jacques dans sa cage d'une façon si violente que celui-ci fut renversé avec son piédestal et resta étendu de son long, sans pouvoir se relever. Le tour de Jean-Paul était venu. Jean-Paul se souvenait parfaitement des leçons un peu cinglantes de son professeur. Aussi se présenta-t-il en véritable anthropophage et poussa-t-il des « ahin, ahin » à faire frémir tout l'auditoire. Il n'eut qu'un cri de terreur. Ce premier sentiment passé, les badauds trouvèrent merveilleux le plumage dont il était couvert et dont le marquis de la Galoche assura que les sauvages étaient naturellement habillés comme les poules de nos contrées. Du reste, ajouta-t-il, ce qu'il y a de plus étonnant chez les anthropophages de cette espèce, c'est la prodigieuse voracité dont la nature, toujours indulgente, sait plus à les orner. Celui-ci, par exemple, que j'ai reçu tout récemment d'un de mes amis qui habite les déserts du Groenland, 3 lieues plus loin que le bout du monde, celui-ci se nourrit indifféremment de plantes, de racines, de légumes, de viande, de fer, d'acier, de brioches et même de cailloux ad libitum. Mais ce qui, après les cailloux, flatte le plus sa gourmandise, c'est la viande crue. Je vais avoir l'honneur de vous en montrer l'expérience. « Allons, attrape, sauvage !» Et il jeta à Jean-Paul un des poulets que nous l'avons vu plumer à cet effet. « Allons, cannibale, » ajouta le marquis, « fais voir à ces messieurs et à ces dames comment les naturels de ta patrie se régalent, sans se donner l'utile souci de les cuire, de ces hôtes emplumés de nos basses-cours, plus vulgairement connus sous le nom de gallinacés électrides. » C'était le moment critique pour Jean-Paul, qui poussa bien quelques nouveaux « ah hein !» en preuve de férocité, mais qui se contenta de regarder alternativement la baguette de son maître et le poulet à ingurgiter, ne pouvant se décider à mordre sur ce granivore. Un bras immense s'éleva alors au-dessus de la foule et s'étendit vers Jean-Paul en même temps qu'une grosse voix disait « Peut-être votre sauvage aimera-t-il mieux un caillou, c'est meilleur !»« Oui, oui !» répétèrent d'autres voix, « il faut qu'il dévore un caillou, ce sera plus amusant !» La situation devenait dramatique. Ajoutez qu'en recevant le caillou de la main de ce subit interlocuteur, Jean-Paul reconnut encore son mystérieux géant. À cet aspect, le faux sauvage frissonna, laissa choir caillou et poulet, et se sauva dans sa cage, dont il ferma vivement la porte pour se mettre à l'abri de la baguette de son maître. Le public fut peu satisfait de ce dénouement. Il y eut des huées, des cris, un redoublement de sifflets, et les mêmes voix demandèrent plus fort que jamais « Les ours ! Le grand combat d'ours ! Nous voulons voir les ours de Sa Majesté, la reine de toutes les Espagnes !» Le marquis de la Galoche tenta d'opérer une nouvelle diversion, mais il était à bout de ressources. L'adjoint du village fut obligé d'intervenir pour rétablir la tranquillité. L'intelligent magistrat se fit expliquer la question et rendit, séance tenante, un arrêté qui fait le plus grand honneur à son bon sens. « Puisque vous avez promis un combat d'ours blanc contre 2 bulldogs, dit-il au marquis de la Galoche, vous devez livrer un combat de 2 bulldogs contre 2 ours blancs. »« Mais je n'ai plus de chien, je n'ai que des ours, » répondit celui-ci. « Je ne puis pas faire battre mes ours contre rien du tout. » Ici, le magistrat fut visiblement interloqué, car les meilleurs esprits se laissent parfois éblouir aux fausses lueurs d'un adroit sophisme. « Mauvaise raison, » cria heureusement la foule, « nous offrons à choisir parmi tous les chiens du village. » « Ah, par exemple, » reprit le magistrat, « voilà une proposition qui lève toutes les difficultés. Je vous condamne donc à fournir tout au moins les ours ou à rendre immédiatement la recette. » La seconde partie de la sentence eût été difficile à exécuter, comment distinguer les œufs et les fromages blancs qui composaient les trois quarts de ladite recette et les rendre sans erreur à leur légitime propriétaire? On a remarqué, du reste, que, quand pareille restitution est ordonnée à la porte d'un théâtre, la somme des réclamations dépasse toujours la somme à partager, et, chose étrange, ce ne sont pas toujours les billets gratuits qui se montrent les moins exigeants. Un murmure flatteur n'accueillit pas moins les paroles de l'autorité, car elles répondaient aux prétentions de la foule. Les foules, en général, aiment beaucoup l'autorité lorsque l'autorité leur donne raison. Pendant ce temps, le marquis de la Galoche faisait d'amères réflexions, car le mot « restitution » était de ceux qui lui faisaient horreur. « C'est bien facile à dire, » pensait-il. « Livrez vos ours, livrez vos ours. Ce serait facile, en effet, si j'en avais. Mais je n'en ai point. Et d'ailleurs, quand bien même j'en aurais, ce ne serait pas pour les mettre aux prises avec une bande de caniches qui n'ont pas reçu la plus légère éducation, qui ne sont pas dressés à se battre sans se faire de mal, et qui me les étrangleraient brutalement. Mais j'y pense. Ma foi, oui, le moyen est ingénieux. J'ai promis des ours, mais je n'ai pas promis qu'ils seraient vivants. Donc, j'ai leur affaire. » Une nouvelle pensée diabolique venait encore de lui traverser l'esprit, aux dépens de Jean-Paul et de Petit-Jacques. « Eh bien, soit, » dit-il à monsieur l'adjoint, « je suis trop partisan du grand principe d'autorité pour regimber contre cette décision. Le combat aura lieu dans la grande cour du Cheval Blanc. Seulement, je demande jusqu'à demain pour les préparatifs indispensables. » « Accordé, » répondit paternellement le magistrat, et il sortit, accompagné de la foule dont il venait de conquérir, pour jusqu'au lendemain, l'éternelle popularité. Le marquis de la Galoche avait conservé soigneusement la peau des deux ours, dont l'un était mort de vieillesse à son service, et dont l'autre, comme je vous l'ai dit, avait été tué pour avoir dévoré le précédent propriétaire de la ménagerie, le sieur Galimafré, qui, ayant passé 3 ans à l'apprivoiser, se flattait d'y avoir parfaitement réussi. Cela soit dit sans porter atteinte à la réputation des ours, et, en général, à la réputation des 100 autres animaux que nous autres, qui mangeons beaucoup de tout avec les 1000 raffinements de la gourmandise satisfaite, que nous appelons féroces, parce qu'ils mangent un peu de quelque chose, avec toute la simplicité de la gloutonnerie affamée. Je serais désolé que mes paroles puissent porter le moindre désagrément à ces pauvres bêtes tant calomniées. Maintenant que j'ai mis ma conscience en repos à l'égard des animaux féroces, je poursuis le cours de notre histoire. La reine des îles Salmigondi daigna employer la nuit à préparer elle-même la défroque posthume des ours. La vue de celle qui avait servi de tombeau à son premier époux dut causer de bien pénibles émotions à son auguste sensibilité. Le lendemain, lorsque tous les badauds furent rangés dans la cour du Cheval Blanc, autour d'un grand câble disposé circulairement pour servir de barrière à la curiosité, le marquis prit à l'écart Jean-Paul et Petit-Jacques, les affubla des deux peaux, les musela, leur attacha une grande chaîne au cou, les déposa dans l'écurie, puis s'en alla, précédé de son mélodieux orchestre, haranguer le public au dehors et faire son choix parmi les 200 ou 300 matins qu'avaient amenés les amateurs. Rien ne manquait donc pour le grand combat, dont les habitants du village ne se montraient pas moins friands que Sa Majesté la Reine de toutes les Espagnes.